Joseph Méry, le joueur d'échecs. Le monde est la patrie du joueur d'échecs. C'est une profession ou un amusement cosmopolite. L'échiquier est un alphabet universel à la portée de toutes les nations. Le bonze joue aux échecs dans la pagode de Jacques Renard. L'esclave, porteur de palanquin, médite un mat contre un roi de cailloux sur un échiquier tracé dans le sable de la presqu'île du Gange. L'évêque d'Islande charme le semestre nocturne de son hiver polaire avec les combinaisons du gambit du roi et le début du capitaine Evans. Sous toutes les zones, les 64 cases du double noble jeu consolent les ennuis du genre humain. Dès le Moyen-Âge, le joueur d'échecs courait le monde comme un chevalier provocateur, jetant les défis aux empereurs, aux rois, aux princes de l'Église et recueillant de l'or et des ovations. Le plus célèbre de ces guerriers pacifiques fut Bois, le Syracusain. Il combattit le pion à la main avec Charles Quint et le vainquit. Il lutta pièce à pièce avec Don Juan d'Autriche, et ce prince se prit d'une si belle passion pour le joueur et pour le jeu qu'il fit construire dans une salle de son palais un immense échiquier avec 64 cases de marbre noir et blanc dont les pièces étaient vivantes et se mouvaient à l'ordre de deux chefs. À la bataille de Lépante, Boy fit une partie d'échecs avec Don Juan d'Autriche et vainquit le vainqueur des Ottomans. De nos jours, le jeu d'échecs n'a rien perdu de sa haute valeur, mais l'homme qui tient le sceptre de ce royaume d'ivoire n'a plus rien à démêler avec le souverain et les papes. À Paris, à Londres, à Vienne, à Berlin, à Saint-Pétersbourg, la gloire des plus forts se contente d'une admiration de famille et souvent elle ne franchit pas l'enceinte d'un club. Deux grands noms seuls ont passé les mers et l'Indien même les connaît et les cite. Hâtons-nous de dire que ces deux noms appartiennent à l'échiquier français, M. Deschapelles et M. de la Bourdonnais. Les cercles d'Allemagne et les clubs d'Angleterre ne leur opposent aucun rival. Il a été donné à M. Deschapelles de rappeler, dans quelques circonstances de sa vie militaire, les exploits de Bois le Syracusain. Après la bataille d'Iéna, il entra à Berlin avec notre armée victorieuse et se rendit au cercle des amateurs d'échecs, où il défia le plus fort en lui opposant l'avantage du pion et de trait. Ce fut un supplément à la bataille d'Iéna. Le cercle de Berlin fut battu en masse et en détail. M. Deschapelles finit par offrir la tour. La gravité méditative et l'organisation exacte et mathématique des Allemands furent vaincus par le calcul vif et spontané de l'amateur parisien. Depuis une quinzaine d'années, M. Deschapelles, l'homme des hautes combinaisons par excellence, a abandonné le champ clos de l'échiquier. C'est aujourd'hui M. de la Bourdonnais qui tient le sceptre et qui règne et gouverne en roi absolu. M. de la Bourdonnais est âgé de 45 ans environ. Tout chez lui annonce le maître du mat. Le développement de son front est vraiment extraordinaire. Ses yeux, dominés par de fortes protubérances, semblent toujours se fermer aux distractions extérieures en se mettant en rapport continuel avec les méditations de l'esprit. Petit-fils de l'illustre gouverneur des Indes immortalisé dans Paul et Virginie, doué d'une intelligence supérieure et d'une persévérance d'application incroyable, il n'a jamais ambitionné que le titre de premier joueur d'échecs du monde, et son but a été atteint. L'Europe sait que M. de la Bourdonnais demeure rue Ménard, numéro 1 à Paris, dans le bel hôtel du Cercle des Échecs, et que c'est là qu'il attend les défis et qu'il donne des leçons. Chaque jour, les étrangers arrivent de tous les points de la carte, les uns avec la noble présomption de combattre M. de la Bourdonnais à armes égales, les autres avec la soumission modeste des inférieurs qui demandent avantage, tout heureux de connaître le maître célèbre et de croiser le pion avec lui. Monsieur de La Bourdonnais ne refuse aucune proposition, aucun duel. Il est prêt à tout et à tous. À midi, les batailles particulières commencent dans le vaste salon du club Ménard, chauffé à 20 degrés en hiver et plein de fraîcheur en été. La figure d'état-major de Monsieur de La Bourdonnais, c'est-à-dire cette élite d'amateurs qui peut battre tous les joueurs anglais du club de Westminster, sans le secours et sans l'œil du maître. Dès que Monsieur de La Bourdonnais s'assoit pour faire la partie de quelques visiteurs inconnus arrivés de Saint-Pétersbourg, de Vienne, de La Haye, de Londres, toute autre partie est interrompue. La foule se porte au quartier général. Elle s'étage autour du chef et tous les yeux sont cloués sur le doigt infaillible qui pousse en avant la pièce ou le pion victorieux. Il est inépuisable l'intérêt qui s'attache à ces amusantes scènes. Et quoique les profanes ne comprennent pas trop ce genre d'émotion, il suffit de dire que les plus grands hommes en ont fait leur passion favorite pour justifier cet intérêt auprès de ceux qui ne sont pas organisés pour le comprendre. Plus heureux que Napoléon, M. de La Bourdonnais a fait sa descente en Angleterre et il a triomphé d'Albion, qui pour lui n'a pas été perfide car l'échiquier anglais n'a point de case pour la mauvaise foi. À cette époque, on parlait beaucoup en France de M. McDonnell, qui, disait-on, avait un jeu supérieur au jeu de M. de La Bourdonnais. Tous les nababs arrivés de Pondichéry et de Calcutta, tous les envoyés de Sir William Bentinck, gouverneur des Indes, tous les explorateurs de la presqu'île du Gange, tous les Anglais, enfin, de l'Est et de l'Ouest India, tous attestaient que Sir MacDonald d'Édimbourg était plus fort que le brave mais Fléhi, natif de Jagrenat, et que par conséquent il battrait des aimants M. Deschapelles ou M. de La Bourdonnais, ces Français frivoles et généreux, comme tous les Français, traduits en anglais dans les vaudevilles d'Adelphi Théâtre. Un jour, M. de La Bourdonnais passa la Blanche, incognito, et descendit à Londres. Dès qu'on apprit à Westminster Club que le célèbre joueur de Paris était arrivé à John Ace Hotel, Leicester Square, une invitation poliment formulée lui fut envoyée, et la bataille ne tarda pas de s'engager entre les deux ennemis amis. Cette fois, M. de La Bourdonnais trouva un adversaire digne de lui. Les Anglais n'avaient pas trop présumé de la force de leur champion. Ce fut une lutte vive, acharnée, intelligente, comme Londres n'en verra plus. La victoire, pourtant, devait rester à la France. Elle fut claire pour tous les yeux et triomphalement établie par une série incontestable de coups décisifs. Il faut le dire, à l'honneur de l'Angleterre, les clubistes de Westminster se comportèrent dignement à la suite de cette mémorable bataille. Ils donnèrent à M. de La Bourdonnais un dîner splendide à Blebe Hall, sur la rive gauche de la Tamise, vis-à-vis Greenwich. Les toasts furent portés avec des vins de France, le champagne et le claret. La mort de McDonnell laisse depuis quelques années l'échiquier britannique dans un degré fort remarquable d'infériorité. La dernière partie, engagée par correspondance avec le club de Londres, a duré 2 ans et a été signalé du côté de l'Angleterre par des erreurs déplorables. En 1838, un article inséré dans le Palamed et relevé à Londres par le Best Life blessa les susceptibilités d'un pays qui compte le chevalier chancelier de l'échiquier parmi ses hauts dignitaires. Cet article rappelait le supplément à la bataille d'Iéna que M. Deschapelles donna au club de Berlin et dont nous parlions plus haut. Au bruit de la levée de boucliers qui partait de Westminster, M. Deschapelles sortit de sa retraite et jeta le gant à l'Angleterre. Alors les protocoles commencèrent en attendant les hostilités. Des députés du club britannique arrivèrent au club Ménard à Paris et furent reçus avec une urbanité toute chevaleresque. Il fut convenu que les notes diplomatiques seraient échangées à l'issue d'un grand dîner chez Grignon. Toutes les notabilités du jeu furent convoquées chez le restaurateur du passage Vivienne. Là se réunirent des artistes, des banquiers, des pairs, des députés, des gens de lettres, des magistrats, des généraux, des industriels, des médecins, des avocats, des rentiers, tout le personnel du club Ménard, enfin, sous la présidence de M. de Jouy. Le dîner fut très amical. Les Anglais burent à la France, les Français à l'Angleterre, et au dessert, les physionomies se rembrunirent et le cartel fut mis sur la nappe pour dernier mets. On discuta jusqu'à 2 heures du matin pour jeter les bases d'un traité de guerre convenable entre les deux nations. L'habileté du cabinet de Saint James perça notoirement dans ces débats. À l'aurore, la question n'avait pas fait un pas. Il fut impossible de s'accorder, on ne conclut rien. M. Deschapelles, qui se préparait à faire aussi sa petite descente en Angleterre, rentra sous sa tente, et il ne resta de tout ce bruit que le souvenir d'un excellent dîner chez Grignon. Les soirées du club Ménard ont été fort animées en ces derniers temps, et elles ont eu, en dehors, un retentissement prodigieux, à cause des merveilleuses parties qu'a jouées M. de La Bourdonnaye, le dos tourné à l'échiquier. Philidor, ce célèbre musicien et joueur d'échecs, avait le premier mis en vogue ses incroyables tours de force, et personne après lui n'avait songé à les renouveler. M. de La Bourdonnaye avait toujours été vivement préoccupé de cette tradition, et ce laurier de Philidor l'empêchait quelquefois de dormir. Un jour, il essaya une de ces parties de combinaisons intuitives et il réussit complètement. Le lendemain, il en joua 2 et ne fut pas moins heureux. Le bruit de ces parties courut la ville et il émut vivement le monde de l'échiquier. On ouvrit alors les portes du club Ménard aux amateurs et aux curieux, et ce qui n'avait eu jusque-là alors un nombre fort restreint de témoins adeptes, éclata au grand jour d'une publicité solennelle. Ces deux parties se jouaient au club dans la grande salle du billard. M. de La Bourdonnaye s'asseyait dans un angle, le dos tourné aux deux échiquiers, le front sur le mur, le visage dans ses mains. Un amateur indiquait à haute voix le mouvement stratégique de la pièce ou du pion avancé. Aussitôt, M. de La Bourdonnaye ripostait comme s'il avait eu l'échiquier sous ses yeux. À mesure que les parties allaient à leur fin et que la double fosse se jonchait de pièces tombées, le croisement de ces milliers de combinaisons opérées par les coups antérieurs, les coups présents et futurs, et embrouillés à l'infini dans la mémoire du joueur aveugle, devenait si effrayant à l'imagination des spectateurs qu'une solution heureuse semblait bien difficile et une double victoire impossible. Qu'on ajoute ensuite aux inextricables difficultés inhérentes au jeu l'assaut continuel des distractions qui arrivaient de toutes les salles, le murmure des voix étouffées, le grincement des portes, l'agitation des pieds, des exclamations involontaires de surprise, les gammes prolongées des rhumes d'hiver, les salutations éclatantes et joyeuses des gens qui entraient sans se douter de rien, tous ces incidents, enfin, dont un seul peut dérouter l'attention et couper dans la mémoire le fil des combinaisons, et l'on se fera à peine une idée de ce miracle de l'esprit. L'analyse physiologique de ce travail intérieur est révoltante. On constate le fait, on ne l'explique pas. Le joueur d'échecs qui s'est voué à son art avec passion mène une vie pleine d'émotions et de charmes. C'est un général qui livre 5 ou 6 batailles par jour et ne fait du mal à personne. Il a toute l'exaltation du triomphe, toute la philosophie de la défaite, toute la volupté de la vengeance, comme dans la vie militaire. Seulement, il ne verse point de sang humain. Le joueur d'échecs a adopté les formules des professions héroïques. Il dit « Hier, j'ai battu le général Haxo » et il sourit avec ovation. Ou bien « Oh, ce matin, le général Duchafaud m'a battu » et il baisse les yeux modestement. Il est ordinaire au club d'entendre des phrases comme celle-ci. « Vous aviez une mauvaise position. Votre tacle a été faible sur la droite. Vous avez engagé bien imprudemment vos cavaliers. Le général a bien manœuvré pour sauver sa tour, etc., etc. On croit toujours être au bivouac le soir d'une bataille. Et ce qu'il y a de mieux au fond de cette passion innocente, c'est que le dégoût et la satiété n'arrivent point. C'est que les illusions enivrantes de la veille recommencent le lendemain. C'est que, pour le joueur d'échecs, tout est vanité, hormis le mat. À la suite de ces batailles, il n'y a jamais de Cincinnatus désenchanté qui court à sa charrue, jamais de charlequin philosophe s'acheminant vers l'ermitage de Saint-Just par dédain de la gloire et des hommes. Vainqueur, on reste sur le champ de bataille. Vaincu, on ressuscite ses morts et on recommence le combat. Un peuple de spectateurs vous complimente ou vous console, selon la chance. 6 fois par jour, on passe sous des arcs triomphaux ou sous les fauches caudines. Et l'heure qui sonne à la pendule du champ clos vous retrouve toujours là, sur le même terrain. Aujourd'hui contre des Anglais, demain contre des Russes, après-demain contre la Sainte Alliance, ou en pleine guerre civile contre des Français, contre un parent, contre le meilleur ami. Gloire, émotion, intérêt, chagrin, joie de tous les moments et de tous les jours. La vieillesse même ne vous arrache pas aux molles fatigues de ces campagnes. Il n'y a point d'hôtel des Invalides pour le héros de l'échiquier. Voyez au club Ménard ce noble et frais chevalier de Barneville. C'est le contemporain de Philidor et de Jean-Jacques Rousseau. Il a joué avec Émile et Saint-Preux au café Procope. Il a reçu la pièce du grand Philidor. Louis XV régnant, il commençait sa partie par le coup du berger classique, à 2 heures après-midi avec quelques encyclopédistes du faubourg Saint-Germain. Aujourd'hui, à la même heure, il débute par le gambit du capitaine Evans, avec M. de Jouy, avec M. de la Cretelle, avec M. Jay. Et cette figure de vieillard, si fraîche, si calme, si bonne, a gardé les mêmes expressions de joie après une victoire, le même rayonnement de bonheur qui éclatait devant Jean-Jacques Rousseau ou d'Alembert. Quel magnifique et vivant plaidoyer en faveur des échecs, et aussi quelle hygiène puissante, oubliée par la médecine. Cette bienfaisante activité de l'esprit, mise en jeu aux mêmes heures et appliquée au même but, régularise admirablement toutes les fonctions du corps et donne aux organes une routine d'existence facile que rien ne peut interrompre. Un joueur d'échecs n'a pas le temps d'être malade ni de mourir aujourd'hui parce qu'il faut qu'il fasse sa partie demain. À l'époque où les rois n'avaient autre chose à faire que de régner, l'échiquier était en haute vénération dans les cours. Aujourd'hui, le peuple, en affectant quelques-uns des pouvoirs de la royauté, a compris le jeu des échecs dans les conquêtes qu'il a faites sur les trônes. Aussi, le noble jeu, devenu populaire d'aristocrate qu'il était, a fait des progrès immenses. Les Anglais, qui publient surtout des volumes qu'on lit peu en Angleterre et beaucoup ailleurs, ont imprimé quelques centaines d'ouvrages sur les échecs. Ils ont rendu service à l'art. Autrefois, le lit et le calabret faisaient autorité dans le jeu. Ces auteurs, nés trop tôt, malheureusement, comme tous les écrivains qui n'ont pas le bonheur de vivre avec nous, ont perdu à peu près tout leur crédit et conservent encore dans une bibliothèque une place honorable quand ils sont proprement reliés. On a inventé depuis une foule de débuts de partie qui remontent de fond en comble l'économie classique de l'ancien jeu. Chaque pièce a son gambit qui porte son nom, de sorte que Palamède, Tamerlan, Alexandre de Macédoine, Parménion, Sésostris, Confucius, Mahomet, Sélim II, Lusignan, Charlemagne, Renaud de Montauban, Lancelot, François Ier, Charles Quint, tous ces graves hommes qui avaient de si hautes prétentions à la science de l'échiquier, tomberaient morts de surprise aujourd'hui s'ils ressuscitaient seulement devant le gambit du capitaine Evans. Il est vraiment bien singulier que Palamède, qui a joué aux échecs 10 ans consécutifs devant les murailles de Troie, avec Agamemnon, Achille, Diomède, les deux Ajax, tous jeunes gens pleins de verve et d'imagination, n'ait pas deviné le moindre gambit. Ce fut Paris, berger sur le mont Ida, qui inventa le coup du berger, et Sinon, qui donna l'échec du cheval de bois au roi Priam, n'a pu créer le gambit du cavalier. Pourtant, quelles occasions ils avaient tous alors pour mettre le noble jeu en progrès. Achille ne bougeait pas de sa tente et jouait aux échecs avec Patrocle nuit et jour. Agamemnon, qui se battait peu, jouait avec le vieux Nestor. Ménélas, le front courbé et appesanti par ses infortunes conjugales, jouait avec Ulysse, l'inventeur. Sur 1 000 vaisseaux à l'ancre à l'embouchure du Simoïs, il y avait 2 000 capitaines grecs qui cultivaient l'échiquier. On se battait une fois par trimestre, on se gardait bien de prendre 3, et le lendemain, les parties recommençaient sur les hautes poupes, Chalcis Pupibus, ou sur le sable de la mer. C'était un immense club d'échecs qui avait pour limite le Scamandre, les portes C, le Capsigé et Ténédos. On conçoit que les nombreux chefs et rois qui bloquaient Ilium et qui périssaient d'ennui aient appelé à leur secours un jeu inventé ou du moins perfectionné par leur camarade Palamède, et que, maîtrisés par l'inépuisable attrait des combinaisons, ils aient laissé couler les heures brûlantes du jour à l'ombre, sous un sapin de Lyda, sous une tente, dans un entrepont et devant un échiquier. La longueur de ce siège qui déconcertait Voltaire et le Vénitien Pococurante s'explique ainsi naturellement. Avec la donnée que nous hasardons ici, on conçoit très bien cette longue retraite de 7 ou 8 ans qu'Achille s'imposa sous sa tente, et qui, sans la puissante diversion des échecs, eût été impossible avec un caractère de jeune héros fort enclin aux vives locomotions de la guerre. Supprimez la tradition homérique des échecs et vous ne vous rendrez pas compte de la conduite du fils de Thétis, anachorète sous un morceau de toile de 6 pieds carrés. Pareil raisonnement s'applique aux lenteurs jusqu'à l'heure énigmatique du siège. Tous ces rois joueurs et passionnés oubliaient Ilium et les désagréments de Ménélas. Il fallait que l'infortuné mari d'Hélène leur peignît souvent et avec vivacité tout le tort qui résultait contre lui de ce long siège qui laissait vieillir sa femme enlevée pour arracher les rois fainéants de l'armée aux douceurs de l'échec et mat. Ménélas voyait au bout de 10 ans Ilium en ruine et sa femme aussi. Le noble jeu avait donc fait le mal et il le guérit. Ce fut donc l'échiquier qui fut la véritable lance d'Achille. Vous allez voir, conseillé par Ménélas, le constructeur Épéus, Fabricator Épéus, tailla une pièce d'échec grande comme une montagne, instar mentis. Sinon la fit manœuvrer par des détours obliques, comme un cheval du jeu, et il mata le roi Priam. Mactat ad aras, selon l'expression virgilienne. Il est fâcheux que l'Iliade et l'Énéide n'aient pas consacré 50 vers à cette explication tardive. Elle satisfera, je l'espère, les savants et les commentateurs. Les rois de l'Orient ont de temps immémorial l'habitude de passer leur vie nonchalante entre les échecs et le sérail. L'histoire cite un assez grand nombre de sultanes et d'obscurs odalisques qui jouaient aussi bien que Jean-Jacques Rousseau, lequel n'était pas très fort, il est vrai, quoi qu'il en dise, l'orgueilleux. Aux époques heureuses où la Russie et l'Angleterre laissaient vivre en paix les monarques de l'Asie, où la question d'Orient n'existait pas, ces brillants monarques, fils du soleil et amis de l'ombre, méditaient à fond la science de l'échiquier et engageaient avec leurs voisins de paisibles guerres dont l'enjeu était une belle esclave ou un bel éléphant. On lit dans un poème inconnu ces vers: le grand roi Chosroès perdit sur une case la rose d'Ispahan, la perle du Caucase, la belle Dilara, sérénité du cœur, qu'un mat livra soumise au pouvoir du vainqueur. Nos roués de la régence qui jouaient leur maîtresse au lansquenet n'étaient que les plagiaires des mœurs antiques de l'Orient. On raconte qu'un des petits-fils de Mahomet, le vieux Orchan, chef de la race ottomane en 1559, faillit perdre aux échecs sa favorite Zaloué, rayon du ciel, en jouant avec son vizir. Au moment où le doigt sacré du fils de Mahomet allait pousser une pièce sur une case fatale et subir un mat foudroyant, Zaloué, qui suivait la marche de la partie derrière un rideau, poussa un cri sourd de désespoir qui arrêta le doigt mal inspiré. Orcan évita le mat et garda sa favorite. On rencontre aussi souvent dans l'histoire plusieurs femmes mêlées aux anecdotes de l'échiquier. De l'Orient à Venise, il n'y a qu'un pas. Le sénateur Flamine Barberigo, riche vénitien, jouait avec la belle Herminia, sa pupille adorée, et ne lui donnait jamais d'autres distractions, car il était horriblement jaloux. Le palais Barberigo était la prison d'Herminia. À cette époque, Bois, le Syracusain, qui courait le monde, battant les papes et les rois, arriva à Venise. La renommée du Syracusain était chère à Venise, comme partout. L'illustre joueur fut appelé au palais Grimani, au palais Manfrini, au palais Pisani-Moretta, où les nobles seigneurs ou la République s'étaient si souvent entretenus de l'illustre maître de Don Juan d'Autriche et de Charles Quint, de ce grand boy auquel le pape Paul III avait offert le chapeau de cardinal, après avoir été glorieusement maté en plein Vatican. Le sénateur Barberigo, le plus fort amateur de Venise, ouvrit aussi son palais à la Bourdonnais de Syracuse. Bois ne fit défaut à aucun, mais il se complut surtout dans la résidence Barberigo à cause de la pupille Herminia. C'était une demoiselle de haute intelligence qui ne s'était jamais prononcée que sur les 64 cases de l'échiquier et qui rêvait d'un avenir meilleur. Elle prit d'excellentes leçons de Bois et, à la dernière, elle disparut avec Bois le Syracusain. La maison Barberigo ne s'est jamais relevée de cet échec. Arrivons maintenant à la partie morale du jeu. Il serait à désirer que la science de l'échiquier fut cultivée dans les collèges, où nous apprenons tant de choses fastidieuses qui ennuient l'enfant et ne servent pas à l'homme. Il y a au fond du jeu d'échecs une philosophie pratique merveilleuse. Notre vie est un duel perpétuel entre nous et le sort. Le globe est un échiquier sur lequel nous poussons nos pièces, souvent au hasard, contre un destin plus intelligent que nous, qui nous mate à chaque pas. De là, tant de faux, tant de gauches combinaisons, tant de coups faux. Celui qui, de bonne heure, a façonné son esprit au calcul matériel de l'échiquier a contracté à son insu des habitudes de prudence qui dépasseront l'horizon des crases. À force de se tenir en garde contre des pièges innocents tendus par des simulacres de Bois, on continue dans le monde cette tactique de bon sens et de perspicacité défensive. La vieille devient alors une grande partie d'échecs, où l'on ne voit tous les lointains que des fous qui méditent, des pointes contre votre sécurité. Tout homme qui vous aborde est une pièce ou un pion. Alors on le sonde, on le devine, et on manœuvre en conséquence. Il ne faut point craindre toutefois que cette tension continuelle d'esprit ne dégénère en manie et ne préoccupe les facultés au point d'altérer la sérénité de l'âme. Les joueurs d'échecs sont des gens fort aimables et fort gais. Monsieur de La Bourdonnais, homme d'esprit charmant, fait sa partie en semant autour de lui les bons mots et les joyeuses saillies, ce qui ne le détourne jamais d'un coup de mat. Ainsi, grâce à l'habitude, l'homme se fait d'une seconde nature de la combinaison perpétuelle. Il ne sent même pas fonctionner en lui ce mécanisme d'intelligence qui ne s'arrête jamais. Les ressorts mis en jeu par une première impulsion le servent à son insu et sans l'ordre de sa volonté. Combien de joueurs d'échecs se sont tirés dans le monde d'une mauvaise position par d'habiles calculs, sans se douter qu'ils dussent leur science de conduite au culte de la combinaison. Puissent nos réflexions augmenter la congrégation déjà si nombreuse des fidèles de l'échiquier. Il y aura moins d'ennuis dans les cercles et moins de fautes dans l'univers.